Bonjour Christophe Gomard.
Bonjour.
Et bienvenue sur RFI.
Merci.
Les chefs d'État et de gouvernement des 27 se sont vus hier à Bruxelles pour parler défense européenne. Le secrétaire général de l'OTAN et le Premier ministre britannique étaient également conviés. Est-ce que ça montre la force des Européens ou une petite panique face aux changements géopolitiques ?
Un peu des deux sans doute.
Oui.
C'est une première quand même que les chefs d'État se réunissent sur le sujet unique de la défense. Avec les Britanniques, car pour moi, la défense de l'Europe est impossible sans les Britanniques, mais elle est impossible aussi avec les Britanniques. Mais c'est ainsi une première.
Oui, impossible avec et impossible sans.
Et impossible sans.
Comment fait-on en général ?
C'est tout le problème. Tout le problème selon moi. Je ne crois pas. Enfin, il n'en est rien ressorti, mais c'est quand même une première. C'est-à-dire que ce genre de réunion est intéressant dans la mesure où les gens se parlent. Déjà, le fait de se parler est bien. Derrière, on voit bien toute la difficulté de la défense de l'Europe, qui reste une des priorités. Avec la compétitivité, ce sont les deux axes prioritaires décidés par Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission, pour avancer pour le mandat de 5 ans de l'actuel Parlement. Sur quoi ça va déboucher, je n'en sais rien. Je pense qu'il y a trois illusions. Il y a une illusion, industrielle, il y a une illusion institutionnelle et une illusion stratégique. C'est-à-dire que le commissaire à la défense, Andrius Kubilius, donc ancien Premier ministre lituanien, qui est aujourd'hui commissaire chargé de la défense et de l'espace, en réalité, c'est pas l'Europe n'est pas compétente en matière de défense. L'Europe est compétente en matière d'industrie de défense. Mais derrière ce mot commissaire à la défense, on veut nous faire croire que, en fait, l'Europe serait compétente en matière de défense. Elle ne l'est pas.
Ce qui n'est pas le cas. Ce sont les nations qui déterminent leur politique.
Absolument. Et il faut que ça demeure. Néanmoins, on peut avoir une politique de défense commune. Ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire, quelle est la vision stratégique de l'Europe? Qu'est-ce que l'Europe doit faire face aux différentes menaces du monde actuel? Que ce soit la Russie, que ce soit l'Iran, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis d'ailleurs. Parce que les États-Unis qui veulent prendre de force ou de force le Groenland. Comment l'Europe réagit-elle? L'Europe n'a pas vraiment réagi. Il y a eu quelques sorties, quelques explications, quelques phrases, mais c'est réponse très faible.
Oui.
Donc on voit bien derrière que l'Europe est assez divisée. Et d'ailleurs, c'est l'objectif d'un Donald Trump, c'est de diviser l'Europe. C'est de faire en sorte que l'Europe soit faible et que ça reste une marketplace pour les États-Unis d'Amérique.
Oui. Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, fait clairement savoir que le parapluie de protection américain n'est pas éternel. Est-ce que l'Europe peut se défendre sans l'Amérique ou est-ce que c'est l'une des illusions que vous évoquiez il y a un instant ?
Alors, l'Europe, au sein de l'Europe, quels sont les pays qui sont capables, qui ont une armée capable de, j'allais dire, d'agir de manière opérationnelle ? Il y a la France, il y a sans doute la Pologne et d'autres petits pays, mais qui n'ont pas une armée vraiment opérationnelle à l'instar de l'armée française, qui dispose de tous les moyens, même si c'est en nombre insuffisant, elle dispose quand même d'une capacité, et on le voit bien aujourd'hui avec notre porte-avions qui est très loin vers l'Indonésie, on voit bien derrière cette capacité de l'armée française. Au-delà de ça, je pense qu'on n'a pas suffisamment de munitions. Les budgets de la défense sont à peine à 2% en moyenne du PIB.
Parlons de ça justement. Est-ce que les pays européens dépensent suffisamment pour leur défense ? Je vous entends dire non.
Non, ils ne dépensent pas suffisamment. Quand j'entends un Mark Rutte, qui est le nouveau secrétaire général de l'OTAN, qui dit qu'il faut dépenser au moins 3% du PIB. Lui, comme Premier ministre des Pays-Bas, a réduit le budget de la défense, qui était le budget des Pays-Bas, était de 1,1% du PIB. Donc ça fait doucement sourire.
Oui.
Mais je pense qu'il a raison néanmoins de le souligner. Il est absolument impératif que l'Europe dépense plus. Savez-vous que l'Europe dépense, quand on additionne les pays, les 27 budgets de la défense, c'est 320 milliards d'euros. Les Américains en dépensent 880 milliards. Donc il y a un gap de 500 milliards d'euros ou de dollars, enfin, parce que c'est à peu près l'équivalence aujourd'hui.
Oui.
Mais donc oui.
Donc c'est nettement insuffisant.
C'est nettement insuffisant.
Mais 3% du PIB, c'est colossal.
Bah oui, surtout quand on a un pays comme la France qui est endetté, comme on le
sait. Exactement.
Comment fait-on ? Je pense qu'il faut faire des économies, et c'est certain. Emprunter, comme certains le voudraient, pour l'Europe, ça me paraît une mauvaise idée. Il y a des pays qui sont contre, dont l'Allemagne, contre un emprunt. Néanmoins, il va falloir en effet que les pays dépensent beaucoup plus. Dépenser plus, ça veut dire plus de contrats pour nos industries de défense, ça veut dire donc qu'elles tournent plus, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que si on dépense plus dans la défense, on fait travailler plus aux industriels, on fait plus travailler l'emploi, et on enrichit.
Un cercle vertueux, vous voulez dire. Oui, parce que justement, est-ce que ça aurait un sens d'augmenter les dépenses militaires de chaque pays européen, si c'est pour, au final, comme nous le faisons beaucoup aujourd'hui, acheter des armes, des munitions, des équipements, des technologies aux États-Unis ou ailleurs ?
Savez-vous que depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays européens ont acheté 80% de leur armement en dehors de l'Europe, 67% aux États-Unis, 13% en Corée du Sud.
Donc on fait faire de bonnes affaires aux Américains.
Absolument.
En dépensant plus en matière militaire.
Exactement. La position française est assez claire dessus, c'est-à-dire que l'argent européen doit être dépensé dans les industries de défense européennes. Il y a tous les types d'industries de défense en Europe. On est parfaitement en mesure de répondre aux besoins des armées européennes. La Pologne, qui a refourgué ses anciens matériels datant de l'ère soviétique à l'Ukraine, a acheté uniquement du matériel sud-coréen et américain. Mais elle aurait très bien pu acheter européen. On critique les industriels européens en disant qu'ils ne vont pas assez vite. Mais parce que quand on n'a pas de commandes, on n'a pas beaucoup de lignes de production. Mmh. Plus vous avez de commandes, plus vous augmentez votre ligne de production et plus vous êtes capable de fournir rapidement, de répondre aux besoins des gens qui vous achètent.
Oui, Christophe Gomard, vous nous dites que s'il y avait les commandes, s'il y avait les budgets, s'il y avait les dépenses, l'industrie, les industries d'armement ou de technologie ou de défense européenne seraient en mesure de produire ce qui est nécessaire ?
Oui. Quand vous regardez par exemple un Dassault, aujourd'hui il a un carnet de commandes de Rafale, je crois, sur 10 ans. Quand vous voyez des industries comme KNDS ou Exxon-Nexter, ils ont augmenté leur cadence de production de canons César, ils augmentent leur cadence de production d'obus. Donc on voit bien derrière que dès lors qu'il y a de la commande, eh bien, les industriels répondent aux besoins, développent leur ligne de production, engage ou recrute des ingénieurs, des techniciens et des ouvriers pour répondre à ces besoins.
Donc c'est faisable.
De mon point de vue, c'est faisable.
C'est faisable. On parle de la pression exercée par Trump sur les Européens. Il menace aussi l'union de guerre commerciale, hein, ça n'échappe à personne, avec des tarifs douaniers. On n'oublie pas, et vous le disiez au début de cet entretien, sa volonté de faire main basse sur le Groenland. Est-ce qu'on peut dire dans ces conditions que les États-Unis sont encore vraiment un allié de l'Europe ?
C'est une bonne question. Pour moi, ancien militaire, ayant travaillé de près avec les Américains, ça reste un véritable allié militaire. Néanmoins, de mon point de vue, nous sommes en guerre économique avec eux. Vu les contraintes, les conditions à travers les normes américaines que l'on doit respecter, sinon ils nous attaquent. On se souvient d'un certain nombre de groupes français qui ont dû payer des millions de dollars aux États-Unis parce qu'ils s'étaient trompés, ils avaient fait des erreurs dans les normes, etc. Donc en fait, je pense qu'il faut imposer les mêmes normes que les Américains nous imposent de façon à arriver à l'équilibre. Mais de mon point de vue, Donald Trump voit l'Europe comme, ce que je disais tout à l'heure, une marketplace dans laquelle, une espèce de centrale d'achat dans laquelle, effectivement, les Européens sont obligés d'acheter aux États-Unis, sinon les États-Unis ne les défendront pas. Et c'est tout le problème de certains noms de pays européens qui se disent « notre seule défense, elle est américaine ». Or, je pense qu'il faut dire « notre seule défense, elle est européenne ».
Elle est européenne. À propos de défense encore, la chef de la diplomatie européenne assure que l'Europe est prête à prendre le relais des États-Unis pour soutenir militairement l'Ukraine. Est-ce que ça vous semble crédible à vous, le général ?
Aujourd'hui, on n'a pas les moyens. On est incapable de fournir aux Ukrainiens les obus dont ils auraient besoin, incapable de fournir les chars dont ils auraient besoin.
Donc c'est une illusion, ça.
On voit bien qu'aujourd'hui c'est une illusion, oui. Mais c'est là où j'appelle au réveil de l'Europe, j'appelle au réveil de la défense de l'Europe. L'élection de Trump 1 était un premier coup de semonce. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est un véritable deuxième coup de semonce. Et l'élection de Donald Trump 2 en est un autre. Mais on aurait dû se réveiller avant. Alors il est toujours temps de se réveiller.
Il est temps de s'y mettre.
Il est temps de s'y mettre, oui.
Christophe Gomard, on va finir en quelques secondes. Je voudrais dire un mot de ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo avec le M23, soutenu par le Rwanda qui a pris le contrôle de Goma. Est-ce que l'Union européenne doit sanctionner aujourd'hui le Rwanda ?
L'Union européenne doit prendre position, c'est certain. Et dire effectivement à Paul Kagame qu'il faut qu'il arrête, parce qu'on voit bien qu'il va se servir au Congo. Et je pense qu'il est nécessaire de prendre des sanctions contre lui, sans aucun doute, ses proches et contre les dirigeants du Rwanda, pour bien leur faire comprendre que ce qu'ils font n'est pas normal au regard des relations internationales.
Donc des sanctions ciblées, ce serait l'hypothèse que vous pousseriez.
Je milite parce que des sanctions, sinon c'est la population rwandaise qui est visée. Or, là-dedans, c'est pas une décision de la population rwandaise, c'est une décision de Paul Kagame et de son gouvernement. Donc oui, il faut cibler les sanctions.
Merci à vous, Christophe Gomard, d'être venu ce matin sur RFI.